Actualité des Alpes du Sud et les JO d'hiver 2030 seraient une aubaine économique.
Selon un cabinet d'études parisien, jusqu'à 50 000 emplois pourraient être créés en France. Ce serait environ 5 500 dans les Hautes-Alpes. Une étude à prendre néanmoins avec des pincettes, car les experts d'Astérès sont partis du budget prévisionnel de cette candidature établi à 3 milliards d'euros.
Fièvre catarrhale ovine, les députés des Hautes-Alpes interpellent la ministre de l'Agriculture.
Avec le groupe socialiste, Valérie Rossi et Marie-Josée Allemand demandent l'activation de la réserve de crise européenne pour deux raisons, compléter les indemnisations françaises et anticiper l'évolution de la maladie.
L'Office national des forêts qui a fait sa rentrée nationale dans les Hautes-Alpes.
C'était mardi et trois sujets étaient au cœur de cette visite. L'émission post-intempérie réalisée par les agents, la gestion des cours d'eau et l'érosion en montagne et enfin la prévention faite par l'ONF quant aux feux de forêt.
Et puis une nouvelle manière de recruter expérimentée pour la toute première fois à Manosque.
Au sein du lycée des métiers Louis-Martin Brett, 14 candidats sans emploi ont enfilé un tablier pour cuisiner un repas pour une quarantaine de convives issus de l'hôtellerie-restauration. L'objectif, recruter sans CV sur uniquement des capacités. Mais avant, la météo s'annonce instable ces prochaines heures avec une tempête du nom de Hétor. Elle va toucher le quart sud-est de la France. C'est pourquoi les deux départements, Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, sont en vigilance jaune pluie inondation à partir de 16h ce soir. Une décision prise par Météo France.
Et donc, les Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes françaises en 2030 seraient les moins coûteux.
Et ils généreraient près de 50 000 emplois uniquement en France. C'est la conclusion d'une étude menée par le cabinet parisien Astérès. Selon ce rapport, Cyril Cavamichard, les Hautes-Alpes pourraient être gagnantes.
Ils sont promis comme les Jeux Olympiques d'hiver les plus verts et les moins onéreux. Ce sont les mots en juillet dernier lors de la candidature devant le CIO du président de la région sud, Renaud Muselier. Et selon le cabinet Astérès, le coût des JO 2030 serait en effet limité, les moins coûteux, depuis Calgary en 1988. Mais on emploie bien évidemment le conditionnel, car les experts sont partis du budget prévisionnel de cette candidature, établi à 3 milliards d'euros. C'est donc si cette enveloppe était scrupuleusement respectée sans surcoût, que les Alpes françaises remporteraient la médaille d'or des Jeux les moins chers. Autre point, l'impact économique des Jeux d'hiver 2030 serait colossal. Il permettrait la création de 48 000 emplois temps plein en France, dont 5 500 rien que pour les Hautes-Alpes. Quant aux retombées économiques, elles sont estimées à 3 600 millions d'euros de valeur ajoutée sur le territoire national. Et les quatre départements concernés par l'événement sportif pourraient capter près de la moitié de cet impact. La valeur ajoutée des JO est donc estimée à hauteur de 380 millions d'euros pour les Hautes-Alpes. Mais là aussi, ce sont si les dépenses sont réparties à parts égales entre les Alpes-Maritimes, la Savoie, la Haute-Savoie et le département haut-alpin. Une étude qu'il faut donc prendre avec des pincettes alors qu'elle intervient à un stade précoce et avec l'hypothèse que l'égalité soit de mise entre chaque territoire. Enfin, ce que cette étude ne dit pas, c'est si le gouvernement de Michel Barnier signera ou non la garantie financière.
Merci Cyrielle. Notez que le président du CIO, Thomas Barr, a accordé une rallonge à la France d'ici le 1er octobre. En bref, dans l'actualité politique au Alpine, Jean-Louis Brochier succède au département à Daniel Galland, le conseiller départemental de Gap 2, délégué aux grands événements et décédé le 14 août dernier. L'Assemblée plénière lui a rendu hommage mardi en lui adressant de longues secondes d'applaudissements.
Sur la commune de Crévoux, une randonneuse et son chien attaqués par deux patous.
Les faits se sont déroulés hier vers 13h30. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, la femme présente des blessures superficielles à la main et au visage. Le chien a également été mordu et a été secouru par les sapeurs-pompiers dépêchés de Briançon. Si les chiens de protection et l'éleveur ont été identifiés, une enquête est ouverte. Elle est conduite par la brigade de gendarmerie d'Embrun.
Et les députés haut-alpins interpellent la ministre de l'Agriculture à propos de la fièvre catarrhale.
Dans un courrier conjoint du groupe socialiste, Marie-Josée Allemand et Valérie Rossi demandent à Annie Genevard d'activer la réserve de crise européenne. Deux objectifs, compléter les indemnisations françaises et anticiper l'évolution de la maladie en renforçant la stratégie de zone tampon vaccinale. Des parlementaires qui souhaitent que l'État envisage la prise en charge intégrale de la vaccination pour le stéréotype 8 et la mise en place de prêts garantis pour aider la trésorerie des exploitants d'exploitation impactés. Selon nos informations, 150 élevages dans les Hautes-Alpes sont touchés par la fièvre catarrhale ovine. Le pic de l'épizootie est attendu pour le 15 octobre, quand les troupeaux auront quitté les alpages.
Une fièvre qui touche également les Alpes de Haute-Provence et impacte fortement les foires.
Elle se déroule sans bétail et ce sera à nouveau le cas ce week-end à Barcelonnette pour la foire de la Saint-Michel. La 23e édition reste maintenue avec la présence de chevaux et de volailles, l'organisation de ventes de matériel agricole ou encore une braderie des commerçants.
Et l'ONF qui a donc fait sa rentrée nationale mardi.
Chaque année, l'Office national des forêts choisit un territoire en fonction de l'actualité qui la concerne. Après une visite dans les Deux-Sèvres l'an dernier, ce sont les Hautes-Alpes qui ont été choisies pour évoquer trois problématiques. La gestion faite par l'ONF en post-intempérie, la gestion des cours d'eau en montagne et la prévention contre les feux de forêt. Sous les yeux de Jean-Yves Collet, le président du conseil d'administration de l'ONF et de Valérie Maîtrise-Eckel, la directrice, les personnels alpins de l'ONF sont revenus sur chacun de ces points. Kelly Ozana.
Il y a 10 mois, le territoire alpin et plus particulièrement le Guilestrois était touché par des intempéries, un événement centenal pour Météo France et qui mobilise depuis le 6 décembre les équipes de RTM, Restauration des terrains en montagne, une branche de l'ONF. Ce sont toutes les cartes de risque de crue et de glissement de terrain qui sont à refaire, un travail long mais important auquel se prête Marc Fouquet, le chef adjoint de RTM Hautes-Alpes.
Par exemple à Guilest, on est là pour conseiller la collectivité et l'État sur la réalisation des travaux de protection sur la zone des Iclas et notamment la réalisation de la digue en rive gauche sur le cône de déjection du Palps. Au niveau des campings, l'idée c'est déjà de faire un bilan du degré d'exposition et de voir un peu s'il y avait des solutions derrière pour réouvrir assez rapidement les campings. Alors à la fois des solutions de travaux, mais aussi des solutions de gestion de crise, c'est-à-dire de redéfinition, de seuil, d'alerte en fait, pour évacuer préventivement les campeurs.
RTM et l'ONF contribuent à la prévention des risques répondant aux sollicitations des pouvoirs publics sur les dangers encourus lors d'événements climatiques. Au-delà de ces missions dans l'urgence dans les cours d'eau, d'autres sont menées en prévention en amont. Bien en amont de la montagne, avec des barrages comme l'érosion de la montagne, c'est notamment ce qui est entrepris sur le Boscodon et ses affluents par les équipes de François Hortard, responsable ONF du secteur embruné.
Des ouvrages qui peuvent être soit en dégénis biologique, en bois, ou alors des ouvrages en béton armé qui peuvent faire des fois 8 mètres de haut. C'est vraiment fait pour ralentir la force de l'eau et pour que l'eau, en ralentissant, se dépose sur l'atterrissement des barrages. Et en fait, il n'y a plus que l'eau qui descend et pas les matériaux qui causent des gros dégâts. En fait.
L'érosion est empêchée grâce aux arbres, des arbres hauts alpins qui, dans les prochaines années, seront, d'après le GIEC, de plus en plus en proie aux feux de forêt en raison du changement climatique. Jusque-là cantonnés au sud-est de la France, des patrouilles de surveillance de l'ONF ont été généralisées à l'échelle nationale dans les Hautes-Alpes. Elles sont au nombre de 5, précise Hervé Ouin, le directeur de l'ONF sur la région Occitanie-Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'atout du dispositif national, c'est de permettre des patrouilles tous les jours pendant l'été. Donc ils sont dotés de véhicules avec des réserves d'eau, avec des pompes. Sur commandement des pompiers, ils peuvent intervenir très rapidement dès qu'une petite fumerole est détectée. 90% des incendies sont éteints grâce à ces dispositifs de patrouille estivale qui permettent d'éteindre rapidement les départs d'incendie.
Un dispositif qui convient parfaitement aux pompiers des Hautes-Alpes peut solliciter cet été sur des feux de forêt par rapport notamment aux incendies de l'été 2023.
Dans les Hautes-Alpes, les feux de forêt sont souvent causés par la foudre qui frappe parfois dans des zones reculées en forêt. Les patrouilles de l'ONF sont donc appréciées pour leur connaissance du territoire.
Direction Manosque désormais, où pour la première fois un restaurant éphémère s'est installé hier au sein du lycée des métiers Louis-Martin Brett.
Une initiative sur le territoire basalpin de l'UMI 04, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, en partenariat avec France Travail, la mission locale et l'UDE 04. Dans les cuisines de l'établissement, des demandeurs d'emploi se sont retrouvés pour concocter un repas à destination d'une dizaine d'entreprises du territoire, de l'hôtellerie restauration. Une autre manière de recruter et d'attirer des candidats dans un secteur en tension. Reportage d'Aurore Valory.
Là, on est sur un pot-au-feu, un petit pot-au-feu qu'on va bien faire réduire pour obtenir un jus un peu sirupeux.
Frédéric Valette de Bord est professeur d'organisation et de production culinaire au sein du lycée Louis-Martin Brett. Dans le cadre de ce restaurant éphémère, les formateurs ont été mis à disposition pour transmettre leur savoir.
On a un menu assez technique, avec plein de choses à faire. Enfin, on essaie de leur montrer un maximum de choses pour qu'ils voient une partie de tout ce que la cuisine peut proposer, quoi.
Car c'est bien la particularité ici, les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément une expérience dans ce secteur. C'est le cas de Patrick, 61 ans, et de Nigel, 21 ans.
J'ai toujours aimé cuisiner. Mais là, travailler avec des chefs, c'est la première fois. Si c'est à refaire, je le refais.
Actuellement, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Du coup, je me suis dit que ça peut être une bonne expérience à voir si ça peut m'intéresser dans le futur. Franchement, c'est enrichissant. On apprend pas mal de choses.
Les épinards, on est bon. Chef, c'est bon, tout est propre, impeccable. On va se mettre sur les échalotes.
Ambiance studieuse au sein des cuisines. Il faut dire que ces 14 candidats ne vont pas être jugés sur leur CV, mais bien sur leur capacité, explique Béatrice Vigani, responsable d'équipe à France Travail à Manosque.
L'idée, c'est de recruter autrement. Et là, on recrute sans CV aujourd'hui sur cette méthode, comme sur d'autres aussi. Donc on ne cherche pas l'expérience, on ne cherche pas les diplômes. C'est ouvert aux personnes curieuses, comme aux passionnés. Une personne qui aime beaucoup faire la cuisine chez elle peut tout à fait postuler ainsi et prouver en direct au recruteur qu'il a des compétences.
Un dispositif qui se veut gagnant-gagnant, il doit permettre d'attirer de nouveaux candidats dans un secteur en tension, tel que l'hôtellerie et restauration, rappelle Lydia Fenois, présidente de l'UMI 04.
Ça les intéresse, puisque comme vous le savez, on a d'énormes difficultés de recrutement dans notre profession. Donc c'est un bon moyen de mettre en place et de créer un lien entre les demandeurs d'emploi et les restaurateurs.
Éclair aux noix de Saint-Jacques, filet de veau et sa sauce caramel, coco sésame ou encore tartelette avec sa chantilly tonka. Le menu du jour avait de quoi susciter l'appétit des convives. Une quarantaine de couverts ont été servis ce mercredi. Un repas qui a été suivi d'un temps d'échange entre les recruteurs et les candidats.
Merci Aurore, en tout cas ça donne envie. Notez que l'UMI souhaite mettre en place ce type de restaurant éphémère au moins deux fois par an avant chaque saison.
Et on termine avec un mot de culture et les caméras d'Alex. Hugo, une nouvelle fois dans le Briançonnais.
Le 32e volet de la série de France 3 intitulé Le Nouvel Eldorado est en tournage. Une vingtaine de jours sont prévus sur Le Pays des Écrins et Le Grand Briançonnais. Une vingtaine de comédiens, une cinquantaine de techniciens et jusqu'à 40 figurants pour certaines séquences sont mobilisés. Il s'agit de la 11e saison de la série policière sur le département des Hautes-Alpes. Entre 3 et 5 millions de téléspectateurs en prime time suivent chaque épisode en moyenne.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.